La main verte avec Oriange de Solabiol. Toute la puissance de l'huile essentielle d'orange pour soigner vos plantes et votre potager.
Et je salue le jardinier de Versailles. Bonjour mon cher Alain.
Il vous salue aussi. Bonjour Eric. Bonjour à tous.
Quand certaines plantes n'ont plus la cote, elles sont alors qualifiées de plantes de grand-mère. Tiens donc.
Eh bien oui, c'est injuste pour les plantes et insultant pour les grand-mères qui ont bien des choses à nous apprendre. Mais il est vrai que certains végétaux, doucement mais sûrement, disparaissent de nos parcs et jardins, comme les mufliers, appelés aussi gueules de loup, les myosotis, les merveilleux zinnias, les dahlias, quelle tristesse de ne pas en voir davantage, ou encore les glaïeuls, toutes ces fleurs que certains trouvent vieillottes et de peu d'intérêt.
Et à ce propos, ce matin, on parle des euchères, aussi moins utilisées qu'auparavant.
Et oui, c'est d'autant plus incompréhensible qu'elles se plaisent en pot et en massif, qu'elles supportent les situations peu lumineuses, voire sombres, sans excès bien sûr, qu'elles se moquent du froid et tolèrent jusqu'à moins 30 degrés, j'ai bien dit moins 30, c'était quand même pas rien, qu'elles poussent dans tous les sols, même calcaires, et, cerise sur le gâteau, s'accommodent de la sécheresse.
Euchère, H-E-U-C-H. E accent grave R-E. Pourquoi ce nom ?
En 1737, l'incroyable Carl von Linné, célèbre botaniste suédois, s'intéresse à cette plante vivace et souhaite honorer Johann Heinrich von Eucher. J'espère, Eric, je parle sous votre contrôle que j'ai bien prononcé ce nom.
Je vous le confirme.
Voilà, donc cet homme est donc né à Vienne en 1677.
Bon, on va le faire approximativement, vous me le rappelez la date ?
Oui, alors Johann Heinrich von Eucher, né à Vienne en 1677. Ouais. Dès qu'on parle allemand, moi ça me perturbe quelque peu. Cet homme fut le médecin personnel d'Auguste II, le roi de Pologne. Alors Eucher était aussi un scientifique de renom incroyable, spécialisé en minéralogie, géologie, zoologie et sciences naturelles. Il était ce que l'on appelle une tête.
Et l'intérêt des Euchers, selon vous, ce sont les feuilles.
Et oui, des feuilles merveilleuses qui peuvent être vertes, bien sûr, rouges, jaunes, bronzes, cuivres, brunes, panachées. Pour faire simple, il en existe de toutes les couleurs et une très grande diversité, presque autant qu'il en existe d'espèces, à savoir une très bonne soixantaine.
Les feuilles, d'accord. Les fleurs aussi sont belles chez les Euchers.
Oh, elles sont merveilleuses, elles sont petites, et le plus souvent roses, rouges ou blanches. Alors il se dit qu'elles sont le cauchemar des artistes qui ne peuvent la représenter de par leur délicatesse. Le moindre souffle de vent les fait trembler, d'où le joli nom d'Eucher de désespoir des peintres.
Désespoir des peintres.
C'est joli comme terme.
Eucher, je note l'expression. Vos conseils à présent, Alain Baraton, et vos réponses aux auditeurs et auditrices de France Inter. Question de Cécile de Kerostin. J'ai fait l'erreur, dit-elle, de sortir mes plants de tomates en plein soleil, et puis je les ai oubliés une nuit dehors. Il faisait 5 degrés. Ils étaient au stade 4 feuilles. Et celles-ci ont blanchi, mais les plantes repoussent bien. Est-ce que ça aura une incidence sur la production des tomates?
Nous ne le verrons que plus tard. Ce que je sais, il y a un terme en botanique, en jardinage plutôt, que les jardiniers emploient, qui est le terme durcir. Quand vous cultivez par exemple des pélargoniums, vous les semez, et avant qu'on ne puisse les planter à l'extérieur, il faut les durcir. Il faut que le feuillage s'adapte au soleil. Et oui, les plantes, c'est un petit peu comme les enfants. Parfois, il y a les couveuses, un petit poussin. Pareil, on va d'abord le laisser au chaud avec sa maman avant qu'il ne puisse courir dans le pré. Idem pour le toutou qui a besoin de la chaleur, de la chaleur. Eh bien, les plantes, c'est la même chose. Eh bien, elles sont petites et délicates. Alors, on sème délicatement des pieds de tomates. Il y a quelques petites feuilles. On les met dehors. Non. On les laisse pour le moment, non pas au chaud, n'exagérons pas, mais à des températures fraîches qui ne gèlent pas. On évite le choc thermique, sinon bien entendu la plante s'affaiblit, développe des carences, semble même dépérir. Le feuillage blanchi devient presque translucide, donc on ne fait rien, mais on évitera maintenant de reproduire cette erreur.
Oui, parce qu'il y aura donc une incidence sur la production de tomates.
C'est pas impossible, mais à voir. Avez-vous vu cette information incroyable qui me bouleverse concernant l'Angleterre? Je ne parle pas bien sûr du prince Philippe, mais du manque de nains de jardin. Le fameux cargo qui a bloqué le canal de Suez, a bloqué l'approvisionnement des nains de jardin dans les commerces d'Angleterre. Il paraît que c'est la panique, on n'en trouve plus aucun actuellement à Londres. C'est un drame.
Et les jardins, et les nains de jardin aussi, c'est votre dada.
Bah oui, tout à fait.
Clément habite en Haute-Savoie, à 1000 mètres d'altitude, dit-il. J'ai planté une haie de if il y a 2 ans, et puis depuis les plantes sont devenues rousses. Que faire pour que les ifs reverdissent?
Alors, les ifs sont des arbustes merveilleux, des arbres, pardonnez-moi, ce sont des conifères qui se plaisent en basse montagne, en moyenne montagne, je ne sais pas quel est leur comportement en haute montagne. Ce que je sais, c'est qu'ils n'aiment pas l'excès d'eau et qu'il faut se méfier parfois de quantités de petites bestioles comme les araignées rouges qui effectivement se logent sous le feuillage, se nourrit de la sève et font roussir le végétal. Il peut donc s'agir d'une attaque d'araignée rouge, dans quel cas il suffit simplement d'arroser les feuilles par le revers. Mais il peut aussi s'agir de coléoptères, des coléoptères un petit peu plus vicieux qui, eux, grignotent les racines et qui provoquent, là encore, le roussissement des végétaux. Il faut donc identifier d'où vient le problème. C'est certainement des bestioles. Sont-elles aériennes ou souterraines? Seul un examen approfondi de la plante permettra de donner réponse à cette question.
Voilà une auditrice qui aimerait connaître un médecin des plantes. Nous aurions besoin d'un médecin des plantes. Est-ce que cette profession existe? Comment en trouver? Quels critères pour choisir? Et combien, si vous le savez, coûte selon vous une visite à domicile d'un médecin des plantes? Ça existe, ça?
Oui, bien sûr. Il existe l'Union nationale des entreprises du paysage, l'UNEP. Et l'UNEP est un organisme qui regroupe les entreprises et qui leur donne des qualifications. Il suffit donc de prendre contact avec l'UNEP et de trouver l'organisme, la société qui sera à même de fournir quelques conseils. Les prix varient bien entendu en fonction du niveau de l'entreprise, du niveau des demandes, mais bien entendu, il existe une quantité de professionnels capables de venir chez vous. Même pour observer simplement votre coussin de belle-mère ou votre sansevieria, il n'y a aucun souci. Il y a des métiers qui permettent de vraiment envoyer des hommes qui s'occupent de toutes les plantes d'intérieur ou d'extérieur sans difficulté.
Adrien souhaiterait planter un pêcher devant son mur. Y a-t-il un risque que l'arbre dégrade le mur? Et d'ailleurs, à quelle distance du mur dois-je le planter?
Souvenez-vous qu'autrefois, on plantait les pêchers au pied des murs. On plantait les abricotiers au pied des murs. On ne plantait les fruitiers pratiquement qu'au pied des murs. Car l'avantage d'un mur, c'est que la nuit, il restitue la chaleur emmagasinée par la pierre, par le soleil dans la journée. Donc il n'y a aucun danger à planter un arbre fruitier au pied d'un mur.
Dernière question de Christophe. Mon mirabellier est la proie de pucerons et de fourmis. Après une belle floraison, je n'ai pas pu déguster les mirabelles. Que me conseillez-vous, Alain Baraton?
D'empêcher les fourmis de grimper, c'est elles qui étalent les pucerons pour mieux extraire le lait que ces derniers produisent. Une petite bande de produits collants à la base du tronc pour éviter qu'elles ne montent. Attention, j'ai bien dit une petite bande, il ne faut pas que les petits oiseaux se collent les papattes.
On termine avec un dernier conseil pour le week-end.
Oui, Jean-Claude Foucault nous a quitté l'an dernier. C'était un expert des roses. Il était ingénieur en roses. Il a greffé son premier rosier. Il avait 12 ans. L'homme savait de quoi il parlait. Eh bien, c'est tout simplement Secret de Rose, une encyclopédie. Illustrie nous parle de tout. De l'histoire des roses, des variétés les plus belles, de comment les reproduire, comment on fait de la confiture avec les pétales. Il va même jusqu'à expliquer pourquoi les fleurs et comment font-elles pour produire du parfum. C'est vraiment un ouvrage complet et précis. C'est publié, gage de sérieux, chez Actes Sud. Jean-Claude Foucart, Secret de Rose, une encyclopédie illustrée.
Dites-le avec des fleurs. Merci Alain Baraton et puis à demain.
À demain.